Livre 18, chapitre 2, contenant un incident très tragique. Tandis que Jones s'était plongé dans les cruelles méditations où nous l'avons laissé, Partridge entra dans sa chambre d'un pas chancelant, le visage plus pâle que la mort, les yeux fixes, les cheveux dressés sur la tête et tremblant de tout son corps. En un mot, il avait l'air qu'il aurait eu s'il eût vu un spectre ou s'il eût été un spectre lui-même. Jones, quoique étranger à la peur, ne put s'empêcher d'être un peu frappé de cette apparition soudaine. Il changea lui-même de couleur, et sa voix était légèrement altérée en lui demandant ce qu'il avait. « J'espère, monsieur, dit Partridge, que vous ne serez pas en colère contre moi. Je vous assure que je n'ai pas écouté, mais j'étais obligé de me tenir dans l'antichambre. Je vous proteste que j'aurais désiré être à 100 000 de là. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? Dit Jones. Pourquoi, monsieur ? Bonté du ciel, répondit Partridge. Cette femme qui vient de sortir est-elle la même qui était avec vous à Upton ? Oui, Partridge. Et avez-vous réellement couché avec cette femme ? Dit-il en tremblant. Je crains bien que ce qui s'est passé entre nous ne soit plus un secret. Non, mais je vous prie, monsieur, au nom du ciel, monsieur, répondez-moi. Vous savez que cela n'est que trop vrai. En ce cas donc, que Dieu ait pitié de votre âme, et vous pardonne, s'écria Partridge. Car aussi sûr que j'existe, et que je suis ici, vous avez couché avec votre propre mère. À ces mots, l'horreur se peignit encore plus fortement dans les traits de Jones que dans ceux de Partridge lui-même. Il demeura quelque temps muet et saisi d'effroi. Tous deux se regardaient d'un air farouche. Enfin, ses paroles trouvèrent un passage, et il dit d'une voix entrecoupée, « Comment ? Comment ? Que me dites-vous ? Ah, monsieur, laissez-moi reprendre haleine. Il ne m'en reste pas assez pour vous raconter maintenant. Mais ce que je vous ai dit est de toute vérité. Cette femme qui vient de sortir est votre propre mère. Qu'il a été malheureux pour vous, monsieur, que le hasard ne me l'ait pas fait voir à temps pour avoir prévenu ce malheur. Il faut que ce soit le diable lui-même qui ait conduit tout cela. Assurément, la fortune ne cessera pas de me persécuter, qu'elle ne m'ait entraîné au désespoir. Mais pourquoi faire des reproches à la fortune? Je suis seule cause de tous mes malheurs. Tous les maux affreux qui sont tombés sur moi ne sont que les conséquences de mes folies et de mes vices. Ce que tu m'as dit, Partridge, m'a presque totalement privé de ma raison. Mrs. Walters était donc... Mais pourquoi le demander? Car tu dois bien assurément la connaître. Si tu as quelque affection pour moi, si tu as seulement quelque pitié, je te conjure d'aller chercher cette misérable femme et de l'engager à revenir me voir. Oh, bonté du ciel! Un inceste! Avec ma mère! À quoi suis-je donc réservé? Il tomba alors dans un accès extrêmement violent de douleur et de désespoir, dans lequel Partridge déclara ne pas vouloir le laisser. Mais, ayant enfin donné libre cours au premier torrent de passion, il retrouva un peu ses esprits. Et puis, ayant instruit Partridge qu'il trouverait cette misérable femme dans la même maison que celle où logeait le gentilhomme blessé, il le dépêcha à sa recherche. Au cas où le lecteur voudra bien rafraîchir sa mémoire en se représentant la scène qui s'est déroulée à Upton dans le 9e livre, il admirera peut-être les nombreux et étranges accidents qui empêchèrent malheureusement la moindre rencontre entre Partridge et Mrs. Walters lorsqu'il y passa toute une journée en compagnie de M. Jones. Des exemples de cette sorte s'observent fréquemment dans la vie, où les plus grands événements sont produits par une jolie série de circonstances mineures. Et plus d'un exemple de ce type sera peut-être découvert par un œil exercé dans l'histoire ici racontée. Au terme d'une vaine recherche ayant duré 2 ou 3 heures, Partridge rejoignit son maître, sans avoir vu Mrs. Walters. Jones, que ce délai avait réduit au désespoir, faillit avoir un accès de folie furieuse lorsque Partridge lui fit ce compte-rendu. Il ne demeura toutefois pas longtemps dans cet état, car il reçut bientôt la lettre suivante. « Monsieur, depuis que je vous ai quitté, j'ai rencontré un individu qui m'a appris une chose vous concernant, qui me surprend et m'affecte beaucoup. Mais comme je n'ai pas actuellement le loisir de vous communiquer une affaire d'une aussi haute importance, vous devrez suspendre votre curiosité jusqu'à notre prochaine rencontre, qui aura lieu aussitôt qu'il me sera possible de vous revoir. Oh, monsieur Jones, comme j'étais loin de penser, lorsque je vivais cette heureuse journée à Hampton, dont le souvenir remplira sans doute d'amertume toute ma vie future, quel était celui à qui je devais un si parfait bonheur? Croyez bien que je demeure à tout jamais et bien sincèrement votre G. Waters. P.S. Je voudrais que vous vous réconfortiez du mieux qu'il vous sera possible, car M. Fitzpatrick n'est aucunement en danger. Ainsi, de quelque autre crime dont vous puissiez avoir à vous repentir, celui d'avoir commis un meurtre n'est pas du nombre. Après avoir lu cette lettre, Jones la laissa tomber, car il n'avait pas la force de la tenir, et était d'ailleurs privé de l'usage de presque toutes ses facultés. Partridge la ramassa, et prenant le silence de Jones pour un consentement, la lut aussi tout du long. Elle ne produisait pas sur lui un effet moins terrible. C'est au pinceau et non à la plume à retracer l'horreur empreinte sur leurs deux figures. Tandis qu'ils étaient restés muets et immobiles, le geôlier entra dans la chambre, et sans faire la plus légère attention à ce qui se remarquait suffisamment dans tous leurs traits, il annonça à Jones qu'il y avait un homme à la porte qui désirait lui parler. Cet homme fut introduit sur le champ, c'était Black George. Comme Black George était moins accoutumé que le geôlier à voir des spectacles d'horreur, il s'aperçut sur le champ de la grande altération qui paraissait sur le visage de Jones. Il l'attribua à l'événement qui avait eu lieu et qu'on avait rapporté chez M. Weston sous les couleurs les plus funestes. Il en conclut que le gentilhomme était mort et que M. Jones était au moment de faire une fin ignominieuse. Cette pensée lui causa beaucoup de douleur, car George était d'un naturel compatissant, et nonobstant une petite faute qu'il avait précédemment commise envers l'amitié, la tentation ayant été si forte qu'il n'avait pu y résister, il n'en était pas moins reconnaissant des anciens services que Jones lui avait autrefois rendus. À cet aspect déplorable, le pauvre garçon eut donc bien de la peine à retenir ses larmes. Il dit à Jones qu'il était extrêmement navré de ses malheurs et le pria de réfléchir s'il ne pourrait pas lui être de quelque utilité. « Peut-être, monsieur, ajouta-t-il, pourriez-vous avoir besoin de quelque argent en cette circonstance. En ce cas, monsieur, le peu que j'ai est de tout mon cœur à votre service. » Jones lui serra la main très cordialement et le remercia mille fois de l'offre obligeante qu'il venait de lui faire. Mais il lui répondit qu'il n'en avait aucunement besoin. George le pressa plus vivement encore d'accepter ses services. Jones lui renouvela ses remerciements en l'assurant qu'il n'avait besoin de rien de ce qui était au pouvoir d'aucun homme vivant. « Allons, allons, mon bon maître, répondit George, ne prenez pas cette affaire si à cœur. Les choses peuvent tourner mieux que vous ne croyez. Vous n'êtes sûrement pas le premier gentilhomme qui ait tué un homme et qui s'en soit bien tiré. » « Vous êtes loin d'être au fait, George, dit Partridge. Le gentilhomme n'est pas mort, et probablement ne mourra pas. Ne troublez pas mon maître en ce moment, car, relativement à ce qui le tourmente, il n'est pas en votre pouvoir de lui rendre le moindre service. » « Vous ne savez pas ce que je suis capable de faire, monsieur Partridge, répondit George. Si son chagrin a rapport à ma jeune maîtresse, j'ai des nouvelles à dire à votre maître. » « Que dites-vous, George ? » s'écria Jones. « Est-il arrivé quelque chose de nouveau en quoi ma Sophie soit intéressée ? Ma Sophie ! Comment un misérable comme moi ose-t-il ainsi profaner son nom ? « J'espère qu'elle sera encore votre Sophie, » répondit George. « Oui, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire qui la concerne. Madame Weston vient de ramener Miss Sophie à la maison, et il y a eu une terrible affaire. » Je n'ai pas bien pu voir quelle en était la cause, mais mon maître était dans la plus violente colère, ainsi que Madame Weston, à qui j'ai entendu dire en sortant, pour remonter dans sa chaise à porteur, qu'elle ne remettrait plus le pied dans la maison de mon maître. Je ne sais pas ce dont il s'agit. Mais tout était fort tranquille quand je suis sorti, et Robin, qui venait à souper, m'a dit qu'il n'avait jamais vu M. Weston de si bonne humeur avec notre jeune dame, qu'il l'avait embrassée plusieurs fois et qu'il avait juré qu'elle ferait de lui tout ce qu'elle voudrait et qu'il ne penserait plus jamais à l'enfermer. J'ai cru que cette nouvelle vous ferait plaisir et en conséquence, quoiqu'il fût bien tard, je me suis échappé pour vous en instruire. M. Jones assura George que cette nouvelle lui faisait le plus grand plaisir, car bien qu'il n'osa plus penser à lever les yeux jusqu'à cette incomparable créature, rien ne pouvait plus adoucir son malheur que la pensée qu'elle était heureuse. Le reste de la conversation qui eut lieu pendant cette visite n'est pas assez important pour être rapporté ici. Le lecteur voudra donc bien nous pardonner cette brusque interruption et sera sans doute bien aise d'apprendre ce qui avait donné lieu à cet excès de bonté que M. Weston venait de témoigner à sa fille. Mrs. Weston, en mettant le pied dans l'appartement de son frère, commença par vanter le grand honneur et les grands avantages qui résulteraient pour la famille de l'union de Sophie avec Lord Fellamar, union que sa nièce avait absolument refusée. M. Weston ayant pris le parti de sa fille et approuvé son refus, Mrs. Weston se mit sur le champ dans une violente colère, irrita et provoqua son frère au point qu'il ne put se contenir plus longtemps et que sa prudence accoutumée l'abandonna. Il se fit alors entre eux un combat de paroles extrêmement animé. Ce fut dans le fort de la bataille que Mrs. Weston sortit, ce qui fit qu'elle n'eut pas le temps de parler à son frère de la lettre que Sophie avait reçue et qui aurait probablement produit un mauvais effet. Mais à dire vrai, je crois qu'elle ne s'en souvint pas alors. Dès que Mrs. Weston fut sortie, Sophie, qui avait jusque-là gardé le silence, autant je crois par nécessité que par goût, se montra reconnaissante envers son père de ce qu'il avait pris son parti contre sa tante, en prenant à son tour le parti de son père contre elle. C'était la première fois que cela lui arrivait, ce qui plut extrêmement à M. Weston. Il se rappela encore que M. Allworthy avait exigé qu'on renonçât absolument à toute mesure violente, et comme il ne faisait pas d'ailleurs le moindre doute que Jones ne fût pendu, il n'en faisait pas davantage qu'il ne dût réussir auprès de sa fille par des moyens doux. Il donna donc encore une fois carrière à la tendresse passionnée qu'il avait naturellement pour elle, ce qui produisit un tel effet sur le cœur soumis, reconnaissant, tendre et affectionné de Sophie, que sans la parole d'honneur qu'elle avait donnée à Jones, sans quelque chose encore peut-être en quoi il pouvait bien être intéressé, je doute fort si, pour obliger son père, elle ne se serait pas sacrifiée à l'homme qu'elle n'aimait pas. Elle lui promit cependant qu'elle ferait la principale affaire de sa vie de lui plaire et ne se marierait jamais sans son consentement. Ce qui le mit de si bonne humeur qu'il se détermina à prendre un parti contraire à celui qu'il avait pris jusqu'alors, la quitta pour aller boire et se coucha complètement ivre. Chapitre 3. Allworthy va voir le père de Nightingale. Découverte étrange qu'il fit en cette occasion. Le lendemain matin, M. Allworthy, suivant sa promesse, alla voir le père de Nightingale, sur lequel il avait un si grand crédit qu'après avoir resté avec lui 3 heures, il finit par obtenir qu'il consentirait à voir son fils. Il s'ensuivit un événement extraordinaire par un de ces hasards véritablement étranges dont plusieurs personnes très honnêtes et très sensées ont conclu que la Providence s'interpose souvent dans la découverte des crimes les plus secrets, pour empêcher les hommes de quitter la route de la vertu, quelques précautions qu'ils puissent prendre en suivant le chemin du vice. M. Allworthy, en entrant chez M. Nightingale, avait vu Black George. Il n'eut pas l'air de l'apercevoir, et Black George crut qu'il ne l'avait pas aperçu. Cependant, quand leur conversation sur le sujet principal fut terminée, Allworthy demanda à Nightingale s'il connaissait un certain George Seagrim et pour quelle affaire il venait chez lui. « Oui, répondit Nightingale, je le connais très bien. C'est un garçon extraordinairement rangé qui, en ce temps-ci, a trouvé le moyen d'accumuler 500 livres sur le produit d'un très petit bien à fermer 30 livres. » Est-ce là l'histoire qu'il vous a faite? Et rien n'est plus sûr, je vous le promets, car j'ai la somme entre mes mains en 5 billets de banque que je dois lui placer, soit avec hypothèque sur quelques bons biens, soit en faisant quelque achat pour lui dans le nord de l'Angleterre. Sur la demande d'Allworthy, les billets furent montrés. Il n'y eut pas plutôt jeté les yeux qu'il se félicita de la singularité de cette découverte. Il dit aussitôt à Nightingale que ses billets de banque lui avaient appartenu autrefois, et l'instruisit ensuite de toute l'affaire. Comme personne ne déclame plus haut contre les fraudes des gens d'affaires que les voleurs de grand chemin, les joueurs et les autres voleurs de cette espèce, il n'y a aussi personne qui se récrie avec plus d'amertume contre les fraudes des joueurs, etc., que les usuriers, les prêteurs sur gages et les autres voleurs de cette espèce. Soit que l'une de ces manières de voler nuise à l'autre, soit que l'argent qui est l'objet commun de la tendresse de tous les voleurs les fasse se regarder entre eux comme des rivaux, Nightingale n'eut pas plutôt appris cette histoire qu'il déclama contre George en termes beaucoup plus violents que la justice et l'honnêteté d'Allworthy ne s'en était permis à son égard. Allworthy pria Nightingale de garder l'argent et le secret jusqu'à ce qu'il entendît parler de lui. Et si, dans l'intervalle, il revoyait Black George, de ne pas lui dire un mot de la découverte qu'il venait de faire. Il retourna alors chez lui, où il trouva Mrs. Miller dans un extrême abattement de ce que son gendre venait de lui apprendre. M. Allworthy lui dit avec beaucoup de gaieté qu'il avait de très bonnes nouvelles à lui communiquer, et sans un plus long préambule, l'informa qu'il avait amené M. Nightingale à voir son fils, et qu'il n'avait pas le moindre doute qu'il n'effectuât une réconciliation parfaite entre eux, quoiqu'il eût trouvé le père fort aigri par un autre accident du même genre qui était arrivé dans sa famille. Il lui raconta alors l'escapade de la fille de l'oncle, qu'il avait apprise du vieux gentilhomme, et que Mrs. Miller et son gendre ne savaient pas encore. Le lecteur peut supposer que Mrs. Miller reçut cette nouvelle avec beaucoup de reconnaissance et non moins de plaisir. Mais son amitié pour Jones était d'une espèce si rare que je ne suis pas certain si la peine qu'elle souffrait à cause de lui ne l'emportait pas encore dans son cœur sur la satisfaction d'apprendre une nouvelle qui tendait si directement au bonheur de sa famille. Et si même cette nouvelle, en lui rappelant les obligations qu'elle avait à Jones, n'était pas pour elle plus affligeante qu'agréable, lorsque son cœur reconnaissant lui disait « Tandis que ma famille est heureuse, combien il est malheureux, ce pauvre jeune homme, à la générosité duquel nous devons le commencement de tout ce bonheur. » Allworthy, après l'avoir laissé un peu ruminer, si j'ose parler ainsi, cette première nouvelle, lui dit qu'il avait encore à lui communiquer quelque chose qu'il croyait devoir lui faire plaisir. « Je crois, dit-il, avoir retrouvé un trésor assez considérable appartenant à ce jeune homme que vous aimez tant, mais dont la situation présente pourrait être telle qu'il lui devienne inutile. » La dernière partie de ce discours fit comprendre à Mrs. Miller de qui M. Allworthy voulait parler, et elle répondit en soupirant « J'espère que non. Je l'espère aussi, dit Allworthy, et c'est de tout mon cœur. Mais mon neveu m'a dit ce matin qu'il avait entendu faire un récit très fâcheux de cette malheureuse affaire. « Bonté divine, monsieur, dit-elle. À la bonne heure. Il m'est défendu de parler, et cependant il est certainement bien dur d'être obligé de se taire quand on entend. « Madame, dit Allworthy, vous pouvez dire tout ce qui vous plaira. Vous me connaissez trop bien pour croire que j'ai de la prévention contre quelqu'un. Et quant à ce jeune homme, je vous assure que je serai charmé de tout mon cœur qu'on me fit entrevoir qu'il se justifiera de tout, et particulièrement de cette malheureuse affaire. Vous pouvez témoigner l'affection que je lui ai portée autrefois. Je sais que le monde me reprochait de trop l'aimer. Je ne lui ai pas retiré cette affection sans croire que j'en eusse les plus justes motifs. Croyez-moi, Mrs. Miller, je serais charmé qu'on me fît voir que je me suis trompé. » Mrs. Miller allait s'empresser de répondre quand un domestique vint lui annoncer que quelqu'un voulait lui parler sur le champ. Allworthy demanda alors son neveu, et on lui dit qu'il avait été pendant quelque temps dans sa chambre avec quelqu'un qui venait le voir fréquemment. M. Allworthy, devinant que c'était M. Dowling, donna ordre qu'on le lui envoyât sur le champ. Quand Dowling entra, Allworthy lui soumit le cas des billets de banque, sans nommer la personne, et lui demanda quelle pourrait être la punition du coupable. Dowling répondit que son opinion était qu'il pourrait être poursuivi au criminel. mais que, comme c'était une affaire assez délicate, il serait à propos de consulter. Il dit qu'il allait se trouver dans un moment avec des avocats pour une affaire de M. Weston, et que si M. Allworthy le voulait, il leur soumettrait le cas, ce qui fut convenu. Alors Mrs. Miller ouvrit la porte et s'écria « Je vous demande pardon, je ne savais pas que vous eussiez compagnie. » Mais Allworthy la pria d'entrer en disant qu'il avait fini son affaire. M. Dowling se retira donc et Mrs. Miller introduisit le jeune M. Nightingale qui venait remercier M. Allworthy du service important qu'il lui avait rendu. Mais à peine eut-elle la patience de lui laisser finir sa phrase. Elle l'interrompit en disant « Oh, monsieur, M. Nightingale apporte de grandes nouvelles au sujet du pauvre M. Jones. Il a été voir le gentilhomme blessé, qui est hors de tout danger, et qui déclare de plus que c'est lui qui a attaqué le pauvre M. Jones et qui l'a frappé. Assurément, monsieur, vous ne voudriez pas que M. Jones fût un lâche. Si j'étais homme, je vous assure que si un individu quelconque se mettait en devoir de me frapper, « je tirerai sur le champ mon épée. »« Je vous en prie, mon cher, dites à M. Allworthy, dites-lui tout vous-même. » Alors Nightingale confirma tout ce que Mrs. Miller avait dit et termina par mille choses flatteuses sur Jones, qui avait, ajouta-t-il, l'un des meilleurs caractères qui fût au monde et ne s'était jamais montré querelleur. Nightingale allait cesser de parler quand Mrs. Miller le pria encore de répéter toutes les expressions tendres et respectueuses dont il l'avait entendu se servir en parlant de M. Allworthy. Dire tout le bien possible de M. Allworthy, continua Nightingale, ce n'est que lui rendre une exacte justice. Il ne peut y avoir de mérite à cela. Mais je dois à la vérité de déclarer qu'on ne peut être plus reconnaissant que le pauvre Jones des obligations qu'il a à un aussi excellent homme. En vérité, monsieur, je suis convaincu que le poids de votre déplaisir est celui qui l'accable le plus en ce moment. Il en a souvent gémi avec moi et m'a souvent protesté de la manière la plus solennelle qu'il ne s'est jamais rendu volontairement coupable d'aucune offense envers vous. Il m'a même juré qu'il aimerait mieux mille fois mourir que si sa conscience lui reprochait d'avoir eu seulement la pensée de vous manquer de soumission, de respect et de reconnaissance. Mais je vous demande pardon, monsieur. Je crains que vous ne m'accusiez d'indiscrétion de me mêler d'une affaire si délicate. Vous n'en avez pas plus dit que c'est le devoir de tout bon chrétien, dit Mrs. Miller. Monsieur Nightingale, répondit Allworthy, j'applaudis à votre généreuse amitié, et je souhaite qu'il la mérite. Je confesse que je suis charmé d'avoir entendu ce que vous avez dit de cet infortuné jeune homme. Et si cette dernière affaire tourne comme vous l'espérez, car je ne doute en aucune manière de ce que vous dites, je pourrais peut-être en revenir à mieux penser de lui que je ne l'ai fait depuis quelque temps. Cette excellente femme ici présente, je puis même dire tous ceux qui me connaissent, peuvent attester que je l'ai aimé aussi tendrement que s'il eût été mon propre fils. Je l'ai considéré comme un enfant que la fortune confiait à mes soins. Je me rappelle encore l'innocente, l'attendrissante situation où je l'ai trouvée. Je me sens encore en ce moment doucement pressé par ses petites mains. Il m'était cher, il me l'était véritablement. À ces mots, il cessa de parler, et des larmes roulaient dans ses yeux. Comme la réponse que fait Mrs. Miller pourrait nous conduire à nous occuper d'objets nouveaux, nous nous arrêterons ici un moment pour rendre compte du changement remarquable qui s'était fait dans le cœur de M. Allworthy et de la diminution de son ressentiment contre Jones. Il est vrai que des révolutions de cette espèce arrivent fréquemment dans les romans et les ouvrages dramatiques, par l'unique raison que le roman ou la pièce de théâtre tire à sa fin. Elles sont d'ailleurs justifiées par l'autorité des plus grands auteurs. Cependant, quoique nous prétendions avoir autant d'autorité qu'aucun autre auteur quel qu'il soit, nous n'userons de ce pouvoir qu'avec beaucoup de ménagement et seulement quand la nécessité nous y contraindra. Ce que nous ne prévoyons pas de voir arriver dans le cours de cet ouvrage. Or, ce changement qui s'était fait dans le cœur de M. Allworthy avait été occasionné par une lettre qu'il venait de recevoir de M. Square, et que nous donnerons au lecteur au commencement du chapitre suivant.